Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes dans ce quatrième dimanche de carême, à la mi-carême. Nous allons donc progresser petit à petit vers le mystère de Pâques, vers le mystère de la mort, de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme agneau innocent qui va porter et enlever les péchés du monde. Et ainsi, les hommes sont invités à espérer et à ne plus craindre la divinité d'une crainte servile, d'une crainte panique, d'une crainte sans espoir, d'une crainte du stérile qui provoque, parmi les fausses religions qu'il a pu inventer, des sacrifices humains comme ceux des Aztèques ou des Incas. Alors, si nous sommes aujourd'hui dans cette mi-carême, il y a un signe liturgique du début de cette messe. Réjouissez-vous dans Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem, sois dans la joie et exulte pour ton Dieu parce que il va venir. Et ainsi, ton péché sera enlevé, exulte Jérusalem. C'est une invitation toute particulière à cette passion et à cette possession de l'intelligence et de la volonté, de l'objet même de l'espérance de manière anticipée. Alors, la joie de nos jours est un terme utilisé dans des sens très divers. Et nous pouvons être joyeux sans forcément l'exprimer. Nous pouvons être surtout en paix et ainsi avoir une joie venant de la paix. Seulement, il faut un minimum quand même d'attitude extérieure de cette paix. Et même si on a un visage qui, lorsqu'il est inanimé en quelque sorte, est un peu rébarbatif, nous avons le visage de notre naissance, eh bien, il faut savoir, en société, mais même peut-être dans la rue, ou d'une manière légèrement habituelle, non pas avoir un sourire niais et mièvre en permanence, mais toutefois, être ce que le français, dans sa finesse, dit avenant, c'est-à-dire avoir un visage avenant, un visage qui invite à une paix visible, une joie, un sourire même léger, qui permet une relation plus facile et plus directe. Mais est-ce que c'est vraiment ici même que nous avons à apprendre ce que la philosophie naturelle, ce que des stoïciens, ce que des épicuriens éventuellement pourraient enseigner sur la joie? La joie, c'est le fait de posséder ce que l'on attend, ce que l'on espère. Et par anticipation, lorsque l'espérance est très forte, elle est un objet qui est déjà joyeux. Mais la vraie joie sera lorsque nous posséderons cet objet. L'enfant qui attend sa mère, qui revient de vacances dans le train, tant qu'il n'a pas vu sa mère sur le quai de la gare, il attend. Il trépigne, il est déjà un peu joyeux. Mais lorsqu'il descend du train et qu'il court vers sa mère et qu'il se jette dans ses bras, il possède l'objet de son amour et il est heureux. Il est joyeux. Eh bien, la nature humaine, elle, est très difficile. Parce que quand nous sommes adultes, on ne nous la fait pas. On ne nous promet pas facilement des objets joyeux. Parce qu'on les connaît. On sait que la joie profonde ne vient pas de choses ordinaires et habituelles et routinières. Ce qui fait qu'on ne va pas sauter de joie toutes les deux minutes, ce n'est pas possible. Et ceux qui veulent être dans une joie permanente, si vous voulez, finissent par jouer un rôle ou être dans une certaine attitude théâtrale. Alors même que, pourtant, aujourd'hui, nous sommes invités à la joie. Alors qu'est-ce que cette joie ? Et c'est en effet, dans un premier temps, la joie de l'espérance. Une espérance très forte. Une espérance qui dépasse les petites joies ordinaires. Et même les grandes joies personnelles, familiales et même sociales. Nationales. La joie, c'est de se réveiller le matin en ayant bien dormi. La joie, c'est de ne pas être malade. La joie, c'est d'avoir de l'appétit. La joie, c'est de se trouver beau dans le miroir. La joie, c'est de bien se coiffer. La joie, c'est de bien se laver, de bien s'habiller et d'être heureux d'un point de vue matériel. Cette joie-là, elle est très simple. Et quand elle manque, on est un peu triste quand même. Il y a quelque chose d'inexorable. C'est à moins qu'on aime son visage, et les vieux visages sont parfois très beaux, et il reste que c'est à nous aussi de choisir les critères de la vraie beauté. Et c'est souvent, en effet, comme je le disais au début, un sourire qui rend un visage beau. Mais ces joies, justement, elles sont plus profondes dans la paix que nous avons en famille, dans l'amour que nous avons pour nos parents. Lorsque nous avons des parents qui sont aimables, qui sont bons et qui sont justes, l'enfant est paisible, il est joyeux. Et lorsqu'il a des difficultés dans sa famille, il a un visage plus inquiet, plus blessé, mais il espère. Ensuite, il y a les relations avec nos frères et nos sœurs qui ne sont pas les mêmes que celles avec nos parents. Avec nos cousins, nos cousines, notre famille, nos oncles, nos tantes, ceux avec qui nous travaillons, nous étudions lorsque nous sommes en école primaire, collège, lycée. Et tout cela fait partie des joies naturelles. Mais elles se trouvent dans la paix de ces relations. Et lorsque un être aimé, avec un être normalement que nous devons aimer ou que nous avons aimé, il y a une querelle, une dispute, nous perdons quelque peu cette joie, nous sommes quelque peu tristes. Et si la mort nous empêche de nous réconcilier, il nous pèse. Cette difficulté nous pèse. Et Dieu, lui, va nous promettre dans cette vie après la mort que la réconciliation est encore possible. C'est ce que les prêtres essayent de vous dire lorsque vous êtes trop triste. Et la joie, la grande joie, c'est la grande paix. C'est de croire que nous pouvons avoir une relation avec le Créateur. C'est de donner au Créateur le nom de Père. C'est de donner au Créateur le nom de Père qui nous donne un Fils. Il y a une joie que vous ne soupçonnez pas et qui peut être donnée à ceux qui n'ont pas encore eu cette bonne nouvelle et qui sont dans une prière naturelle par rapport à l'existence de Dieu, du Tout-Puissant. C'est de croire vraiment dans l'incarnation. C'est de croire vraiment que Jésus est le Verbe du Père. Sa pensée éternelle, son intelligence éternelle, parce qu'il n'y a pas trois dieux, il y a une relation de père à fils entre l'Ancien des Jours et sa parole, dans l'amour de Dieu, l'Esprit Saint. Et c'est ce Verbe, cette parole, cette intelligence éternelle du Père qui s'est fait l'un d'entre nous. Enfin, quand même, c'est la preuve d'un amour extraordinaire. Ce n'est pas seulement pour racheter nos péchés, ce n'est pas seulement pour compenser ce manque d'amour que nous avons dans notre orgueil, lorsque nous avons cru, lorsque nous croyons être des dieux tout-puissants et indépendants, alors même que Dieu, lui, dans sa toute-puissance et dans son indépendance, eh bien, il veut être dépendant. Il a créé des anges libres, il a créé des hommes libres, et il leur demande leur amour libre. Alors vous me direz, si on n'aime pas Dieu, on est puni et on est triste pour l'éternité. Oui, mais il y a un mystère, en effet. Nous sommes quand même libres quand nous choisissons d'aimer Dieu, même si sa grâce nous entoure. Et nous sommes libres lorsque nous refusons d'aimer. Et nous sommes justement malheureux. Alors il nous est proposé d'être heureux. Il nous est proposé d'être joyeux. Mais comment voulez-vous être profondément joyeux si vous ne croyez pas qu'il y a une espérance, qu'il n'y a pas une vie après la mort, qu'il n'y a pas des joies intermédiaires et terrestres, mais qui s'épanouissent dans une joie sans ombre et sans inquiétude, et sans maladie, et sans rupture, et sans séparation? Combien d'âmes ont gardé la foi parce qu'ils ont aimé et ils ont voulu retrouver les êtres aimés qui étaient morts. Mais est-ce de la consolation facile et un opium du peuple? Ou est-ce vrai? Aussi vrai qu'il n'y a pas d'effet sans cause, que Dieu est un créateur plein de fantaisie, un artisan extraordinaire qui nous a mis les yeux en face des trous et les oreilles sur les côtés, et non pas par hasard et par milliards d'années, mais parce qu'il est le maître de cette création. Il aime les fleurs, il aime les insectes, il aime ses créatures, et il aime spécialement ceux qui peuvent répondre librement à son amour et être heureux. Alors, l'espérance nous donne déjà une partie de ce bonheur de posséder Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui saint Paul nous dit que nous sommes des hommes libres et que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, une peur servile. Ah, que nous ayons peur d'offenser Dieu et de ne pas répondre à son amour, mais nous avons même cette peur vis-à-vis de nos parents, surtout quand nos parents sont des saints et qu'ils sont des êtres pleins de bonté. On hésite à leur faire de la peine. Mais voilà que ce Dieu nous dit, l'évangile d'aujourd'hui va se donner en nourriture. Et pas pour dominer ou être un roi temporel, mais pour être saisi, manger, pour que nous puissions faire un avec lui. Et dans cette espérance de le voir, de le toucher comme saint Thomas l'a touché. Oui, saint Thomas n'a pas cru que ce crucifié flagellé était en bonne santé 3 jours plus tard. Les saintes femmes n'ont pas pu convaincre les apôtres, et les apôtres n'ont cru que lorsque Pierre l'a vu, et lorsqu'ils l'ont vu. Et il a fallu attendre une semaine pour que Thomas le croie. Et saint Paul de s'énerver et de dire, mais comment pouvez-vous considérer que Jésus n'est pas ressuscité? Il y en a eu 500 qui l'ont vu vivant. Voilà le sens de ce dimanche. Il est certain que Dieu s'est fait homme, né de la Vierge Marie. Il est certain qu'il y a une source de grâce qui nous pardonne et nous libère de nos faiblesses, de nos péchés, de nos paresses, de notre égoïsme, de nos jalousies, de nos querelles. Et si vous pouvez vous confesser à un prêtre, vous userez de cette grâce particulière du sacrement qui nous donne la certitude du pardon. Alors qu'il y a des millions de personnes, des milliards de personnes qui, lorsqu'elles se tournent vers Dieu, parle à Dieu, demande pardon à Dieu. Et nous, baptisés, nous avons la certitude du pardon en étant humbles, non pas humiliés, mais humbles devant un prêtre. Et nous n'en profitons pas. C'est curieux. Pourtant, quelle liberté et quelle joie lorsqu'on se confesse. Et voyez-vous, nous avons donc bien besoin de l'incarnation. Nous avons besoin de la dire. Par exemple, le pape François en ce moment témoigne par la croix qu'il a sur la poitrine que c'est Jésus qui libère et pas seulement le Dieu Tout-Puissant Créateur. Et il est le vicaire du Christ, il est le successeur de Pierre et de par sa personne, à côté du politiquement et du religieusement correct qui nous empoisonne quelque peu, il est là, quoi qu'il dise, pour manifester que Dieu s'est fait homme, qu'il a choisi 12 apôtres, et que parmi eux, il y avait Pierre, qui a été crucifié la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas mourir comme Jésus, et qui est mort à Rome. Et dans cette foi chrétienne qui nous a été transmise, et qui a été transmise à tout l'Empire romain et à tous les pays du monde actuellement, nous avons la bonne nouvelle et la vraie joie. À nous d'être évangélisateurs, à nous de faire le beau prosélytisme et d'offrir cette joie et de confesser notre foi en un Dieu d'amour qui s'est fait homme. Que nous puissions vivre de cette foi, de cette espérance et de cette charité, et en ces derniers jours du mois de mars, que Saint Joseph nous accompagne pour la fin de ce carême, lui qui a été témoin de la vraie religion et de l'incarnation, et qui a vu de ses yeux et qui a touché de ses mains le Verbe fait chair, né de son épouse et né du Père éternel. Que nos saints anges gardiens aussi nous accompagnent, ces purs esprits qui admirent l'amour de Dieu dans l'incarnation pour nous, pauvres créatures, avec un corps, mais avec une âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.